en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre nouvelle invitée pour cette émission en habit vert consacre sa carrière à la recherche de traitements pour les leucémies. Il travaille depuis une vingtaine d'années à l'hôpital Saint-Louis à Paris et dirige une vingtaine de personnes au sein de son laboratoire. Hugues de Thé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2011, professeur de biologie moléculaire à l'Université Paris 7, Paris Diderot. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos recherches, des prix notamment de l'Académie des sciences. Et dernièrement, vous avez reçu le prix de la coopération internationale scientifique et technologique avec la Chine. Et nous en reparlerons bien sûr au cours de cette émission, car c'est en effet à partir d'une collaboration avec une équipe chinoise qu'aujourd'hui une forme rare de leucémie peut être totalement traitée. Nous y reviendrons donc au cours de cette émission. Hugues de Thé, votre père, Guy Blaudin de Thé, est membre de l'Académie nationale de médecine, correspondant à l'Académie des sciences. Il est un des pionniers dans la découverte de virus qui jouent un rôle dans certains cancers. Et vous avez un peu suivi ses traces puisque vous aussi, vous vous intéressez aux stratégies thérapeutiques pour soigner certaines leucémies. Avez-vous donc volontairement suivi ces traces ou est-ce que vous avez quand même cherché à vous démarquer un peu ?
Sans chercher à me démarquer, je n'ai pas du tout suivi ces traces de manière volontaire. En fait, ma première formation à la sortie de la terminale a été une formation en mathématiques, physique-chimie par les classes préparatoires. Et la découverte finalement après 2 ans que tout ceci ne m'intéressait pas beaucoup et que je voulais m'intéresser à des systèmes intégrés, des systèmes biologiques. Et il m'a semblé que la médecine était la voie la plus opportune à travers la richesse de la pathologie, le fonctionnement d'un système intégré qui est l'être humain. Et donc ensuite, j'ai mené des études médicales en parallèle des études scientifiques, d'abord à la faculté Alexis Carrel à Lyon, et puis ensuite à l'école de médecine Necker à Paris. Et c'est là que j'ai commencé en fait à prendre le goût et le virus pour la recherche, c'est-à-dire de la perspective dans laquelle j'ai fait ces études était surtout d'essayer de comprendre le mécanisme des maladies et à partir de la compréhension de ces mécanismes, de dériver des nouvelles stratégies. Et à vrai dire, ceci, il y a un nom qui ressort dans cette approche, c'est celui de Jean-Pierre Grunfeld, qui est un remarquable, extraordinaire néphrologue, qui était aussi un très remarquable pédagogue et qui donc nous apprenait à réfléchir face à un patient en termes de mécanismes, en termes de physiopathologie et en termes ensuite d'approche thérapeutique rationnelle. Et j'ai été très marqué par le séjour pourtant court que j'ai fait dans son service. Et je crois qu'après, c'était peut-être simplement en 3e année de médecine, il était devenu tout à fait clair pour moi que je voulais me consacrer à l'étude du mécanisme des maladies et plus que de me consacrer au traitement des malades. Et j'ai ensuite donc poursuivi, chose que j'avais déjà un peu commencé, mais poursuivi avec beaucoup de force, une formation parallèle à la faculté des sciences en immunologie, en chimie, en biochimie, en physiologie, de manière à avoir des bases scientifiques solides et puis les racines pour essayer de comprendre tous ces mécanismes extraordinairement complexes et extraordinairement variés qui sont à l'origine des maladies. Je crois qu'il y a un autre nom qu'il faut aussi citer dans cette phase initiale de formation, c'est celui de Claude Gresselli, autre médecin immunologiste pédiatre de Necker, qui avait dans le domaine des maladies immunologiques une approche assez similaire, de créer des entités homogènes, réfléchir en termes de mécanismes, de génétique. Et là aussi, l'année que j'ai passée dans son service m'a énormément appris et puis conforté dans cette idée qu'il était possible d'aborder de manière scientifique des mécanismes extrêmement compliqués qui sont ceux des maladies humaines.
Alors, vous faites partie de ces chercheurs, effectivement, donc vous embrassez bien sûr la carrière de chercheur, mais qui reste proche justement des applications, reste proche justement des patients. Vous parliez de Necker, après Saint-Louis, c'était quand même aussi une volonté, puisque bien sûr vous nous expliquez, vous n'êtes pas entrer dans la pratique, mais de rester quand même proche d'applications concrètes de vos recherches.
Donc entre Necker et Saint-Louis, il y a eu 6 ou 7 ans à l'Institut Pasteur, dans le laboratoire de Pierre Thiollet. Pierre Thiollet qui est aussi un homme qui m'a beaucoup marqué, justement par sa volonté de vouloir conjuguer la science la plus moderne avec des applications médicales et des applications médicales centrées sur des grandes pathologies humaines. Et là aussi, cette clairvoyance de Pierre Thiollet dans sa capacité à lier des problématiques scientifiques et des problèmes de médecine à l'échelle d'une population, a été pour moi une expérience extrêmement marquante et qui ne m'a jamais quitté.
lors de votre discours, lors de votre réception sous la coupole, en mars 2011, ici à l'Institut de France, donc reçu en tant que membre de l'Académie des sciences, vous avez expliqué qu'au cours de votre formation médicale à Necker, il vous était venu à l'idée, une idée simple, il vous était venu à l'idée d'utiliser la pharmacopée pour justement sonder les mécanismes des maladies. Autrement dit, utiliser déjà des médicaments existants, des molécules que l'on connaissait pour soigner des maladies graves, rares, sur lesquelles la recherche planchait. C'était une démarche tout à fait novatrice.
Je ne suis pas sûr qu'elle était novatrice, puisque j'avais été exposé, à vrai dire, dans le temps que j'avais passé dans le laboratoire de Philippe Meyer, pharmacologue aussi à Necker, et j'avais été très, très intéressé par l'étude d'une pompe membranaire qui s'appelle la pompe sodium-potassium, qui va réguler les échanges d'ions à travers les membranes. Et cet échangeur sodium-potassium, cette pompe sodium-potassium, en fait, avait été en partie définie grâce à un médicament, une toxine dérivée d'une plante, un l'ouabaïne, dérivée de la digitale. Et j'avais été très frappé, déjà, par ce modèle sur lequel j'avais travaillé un petit peu pendant mes licences, d'aborder une protéine de fonction très complexe, essentielle pour la physiologie cellulaire, à travers des extraits de plantes. Et je m'étais dit, effectivement, que là, il y avait une idée à creuser, et qu'on pouvait éventuellement imaginer rentrer dans des systèmes biologiques complexes avec soit des poisons, soit des toxines, soit des médicaments, et que ces médicaments pouvaient être des armes, des outils extraordinairement utiles, pas seulement pour soigner des malades, bien sûr, mais aussi pour sonder des systèmes biologiques complexes et arriver à étudier ou avoir une porte d'entrée, au moins, dans le mécanisme de certaines fonctions biologiques ou de certaines maladies. Et je dois dire que cet exemple qui m'avait beaucoup marqué, il y a peut-être plus de 35 ans, finalement a été un thème récurrent dans mon parcours scientifique. Et à de plusieurs reprises, j'ai pu ou j'ai su utiliser des médicaments ayant des effets surprenants pour aller chercher à comprendre les bases biologiques de ces effets et du coup assez souvent entrer dans des mécanismes physiopathologiques extrêmement pertinents.
Alors, parmi les membres ici de l'Académie des sciences, il y a deux personnes que vous connaissez bien, ce sont Laurent Degauss et Anne de Jean Assema. Donc vous avez rejoint cette Académie en 2011, il y était un tout petit peu avant. Et donc, vous avez travaillé ensemble sur une sorte de leucémie qui est bien particulière, elle touche une centaine de personnes par an, une centaine de cas par an, qui sont donc les leucémies promyélocytaires. Et c'est à partir de cette leucémie que vous allez travailler et accentuer vos recherches. Et je crois que vous travaillez encore, je crois, dans ce domaine-là. Pouvez-vous nous raconter justement cette aventure ?
Alors, cette aventure, en fait, commence en Chine avec la découverte par Wang Zhangyi, qui est membre associé étranger de cette académie, et qui observe que l'acide rétinoïque, donc une hormone bien connue, dont les récepteurs ont été trouvés peu de temps après, que cet acide rétinoïque était capable d'induire in vivo, un changement de destin, en quelque sorte, de ces cellules leucémiques qui vont entrer dans ce qu'on appelle la différenciation. La différenciation, ça veut dire un changement de forme, ça veut dire un changement de programme génétique, ça veut dire un changement de fonction, ça veut dire aussi transformer une cellule qui était immortelle en une cellule qui est mortelle et qui va disparaître. Donc il y avait beaucoup de travaux sur la différenciation ex vivo, en particulier induite par l'acide rétinoïque. C'était la première fois qu'on était capable d'induire cette différenciation in vivo.
Donc stopper la prolifération.
Stopper la prolifération et faire disparaître au moins la transitoirement la leucémie. Et donc ces observations ont été ensuite confirmées en France par Laurent Degauss, qui avait beaucoup travaillé déjà avant ça sur ce concept, mais pas sur ce modèle-là, sur ce concept de différenciation de la leucémie et de thérapeutique par différenciation, et qui a été l'un des premiers en dehors de Chine à y croire et à pouvoir effectivement reproduire ses résultats en France. Et Laurent Degauss a eu l'idée de rapprocher finalement deux choses, qui le rapprochement n'était pas évident, l'existence d'une translocation chromosomique particulière qui était déjà connue, donc une cassure entre deux chromosomes qui est spécifique de cette maladie, et qui était située au voisinage, au sens large, de l'endroit où était le récepteur à l'acide rétinoïque, et de lier l'existence de cette anomalie cytogénétique de la sensibilité à cette hormone qui était tout à fait extraordinaire et unique dans les effets biologiques et le mécanisme possible.
Mais l'acide rétinoïque ne suffisait pas alors ?
Alors, d'une part, au niveau clinique, l'acide rétinoïque ne suffisait pas, puisque quand on traite à l'acide rétinoïque, certes, les patients vont être mis en rémission, mais cette rémission est transitoire, et en l'absence de traitement complémentaire, les patients vont rechuter, probablement par des mécanismes que nous avons maintenant élucidés. Et donc, c'est également Laurent Degauss qui a été le premier à proposer une association entre le traitement par chimiothérapie standard et ce nouveau traitement différenciant par acide rétinoïque. Et cette association a effectivement permis de faire un véritable saut quantique dans la guérison de ces maladies. On est passé en gros de 25% de guérison avec le traitement standard à 70% avec une association d'acides rétinoïques et de chimiothérapie. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de l'histoire. Et donc, l'existence de cette sensibilité thérapeutique à l'acide rétinoïque et de cette translocation chromosomique qui est spécifique à cette maladie et dont on se doutait bien qu'elle devait conduire à un gène impliqué directement dans le déterminisme de cette maladie, l'a conduit à proposer qu'il puisse y avoir un rapport entre les deux, qui a été donc d'abord exploré à l'hôpital Saint-Louis avec Christine Chaumienne, et puis ensuite, avons réalisé à Pasteur, avec Anne de Jean, le clonage moléculaire de cette anomalie, en caractérisant en particulier un gène de fusion, on a appelé PML-RAR, fusion entre deux gènes, le gène PML et le gène RAR, et ce gène PML-RAR est vraiment le chef d'orchestre, hein, c'est le déterminant majeur, si ce n'est unique, de cette maladie, c'est le gène qui va transformer une cellule normale en une cellule leucémique.
Et donc c'est un seul gène, c'est une maladie monogénique.
Alors c'est notre vision, tout le monde n'est pas absolument d'accord avec ça, mais au moins, si ce n'est pas strictement monogénique, la contribution de PML-RAR à la transformation cellulaire est absolument écrasante. Il est possible qu'il y ait d'autres mutations, d'autres amplifications géniques qui coopèrent ou qui rendent le phénotype plus violent, mais tout de même, sans PML-RAR, il ne va pas y avoir de leucémie. Et par ailleurs, comme on a pu le voir après, cibler PML-RAR va permettre d'avoir des effets thérapeutiques, voire de guérir cette maladie.
Alors voilà la première partie de l'histoire.
Voilà.
Et puis, comme vous le disiez en préambule, effectivement, vous aviez un intérêt pour justement les toxines, les médicaments et même les poisons, donc pour pouvoir travailler à la compréhension des mécanismes des maladies. La deuxième partie, justement, de l'histoire, c'est qu'un poison, justement, en tout cas, c'est comme ça que nous le connaissons ici, l'arsenic, va aussi apporter sa contribution pour le traitement de cette maladie, cette leucémie promyélocytaire.
Tout à fait. Et ce qui est assez étonnant, finalement, c'est que l'exemple de l'ouabaïne dont je vous ai parlé il y a quelques instants trouvait une nouvelle illustration dans l'acide rétinoïque, puisque là, l'acide rétinoïque, c'était un traitement miracle, finalement, dont la base n'était pas comprise. Le clonage de la translocation permet de lui donner un sens, puisqu'à l'évidence, l'acide rétinoïque va cibler le récepteur à l'acide rétinoïque qui est présent dans PML-RAR. Et donc, on va pouvoir expliquer de manière logique ce traitement par l'acide rétinoïque, par un ciblage direct de PML-RAR. Et donc, finalement, on était tout à fait dans cette vision que j'avais eue 15 ans avant, de sonder la physiopathologie des maladies à travers la sensibilité à des poisons ou, là en l'occurrence, à un médicament. Et l'histoire s'est répétée peu de temps après, avec la découverte donc, de l'efficacité clinique de l'arsenic, encore une fois par nos amis et collègues de Shanghai, en particulier de Chengdu. Et au cours d'un voyage que j'avais effectué là-bas avec une délégation française en 1995, Chengdu et Wang Zhengyi me disent « on a trouvé un nouvel agent thérapeutique efficace, un élément très simple, toxique ». Ça a l'air de marcher encore mieux que l'acide rétinoïque. Alors ça, c'était évidemment pour moi absolument stupéfiant, très excitant. Et Chengdu, donc, a envoyé peu de temps après dans mon laboratoire un de ses plus brillants élèves, Junsu, avec qui nous avons donc, en coopération avec eux, essayé de décortiquer le mécanisme par lequel l'arsenic, qui est un toxique tout à fait général, qu'on trouve dans la mort aux rats, qu'on trouve dans des insecticides, dans des produits pour jardin, bien comment est-ce que cet arsenic allait avoir un effet aussi extraordinaire sur cette maladie et sur cette maladie de manière relativement spécifique. Et les travaux ultérieurs ont montré qu'en fait, c'était de manière extrêmement spécifique puisque l'arsenic n'est actif pratiquement que sur cette maladie.
Et là aussi, l'arsenic ne va toucher que les cellules leucémiques.
Tout à fait. L'arsenic est extraordinairement spécifique pour les cellules leucémiques. Très peu de toxicité à ces concentrations-là sur les cellules normales. Et en fait, une des premières observations que nous avons faites à Paris avec Junsu, c'était de montrer que l'arsenic était capable aussi de cibler PML-RAR, mais cette fois-ci à travers l'autre partie constitutive de cette protéine, sa partie PML. Et donc ça conduisait à un modèle d'une grande simplicité, d'une grande élégance, qui était que la translocation chromosomique à l'origine de la maladie allait souder ensemble deux gènes qui normalement n'avaient rien à faire l'un avec l'autre, et que les deux traitements allait cibler chacune des parties constitutives de cette protéine et les cibler pour la dégradation, donc pour la destruction de cette protéine. Et donc on arrivait à un modèle très simple, assez logique, mais auquel les gens n'ont pas du tout cru à l'époque, qui fondait finalement la réponse thérapeutique sur la capacité de ces médicaments à dégrader la protéine PML-RAR, avec évidemment un parallélisme tout à fait frappant entre l'acide rétinoïque qui allait dégrader PML-RAR à travers sa partie RAR et l'arsenic qui allait dégrader PMLRR à travers sa partie PML.
Alors effectivement, dégrader pour guérir, de terme assez fort, vous parlez de guérison et non pas de rémission, comme c'est souvent le cas dans le cas de cancer. J'imagine que c'est là aussi une des particularités de ce traitement pour cette leucémie. Alors,
c'est effectivement une particularité. Et la démonstration, en fait, s'en est faite en deux temps. D'abord, dans une première phase, des souris ont été extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'un certain nombre de groupes dans le monde ont réussi à créer cette leucémie chez la souris et ont pu réaliser des expériences qu'on appelle de préclinique, c'est-à-dire de tester, en fait, sur des souris mimant la maladie humaine, des stratégies thérapeutiques. Et à cet égard, une expérience importante, fondatrice là aussi, a été de montrer que dans ces modèles de souris, l'acide rétinoïque était capable d'induire des rémissions transitoires, l'arsenic était aussi capable d'induire des rémissions, là aussi transitoires, et l'association des deux était capable de guérir toutes les souris. Et ça, pour des raisons un peu complexes sur lesquelles je ne vais pas insister, c'était en complète contradiction avec les modèles de leucémogénèse prévalant à l'époque. C'était incompatible avec les modèles qu'il y avait à l'époque. Mais néanmoins, c'était tout à fait clair et ces observations de Valérie Lallemand ont été reproduites par de nombreux collègues, en particulier Pier Paolo Pandolfi à Harvard et d'autres. Et donc, tout le monde a pu voir que la conjonction des deux traitements permettait la guérison de toutes les souris. Et ça, évidemment, ça a appuyé de manière assez substantielle l'hypothèse que la dégradation de PMLRAR était bien à l'origine de la guérison, puisqu'évidemment, les deux voies de dégradation n'étant pas les mêmes, elles allaient pouvoir agir de manière synergique. Elles allaient donc pouvoir dégrader beaucoup mieux avec les deux médicaments qu'avec l'un ou l'autre isolément. Donc ça, c'était une prédiction forte. Et ces expériences de souris donc, ont été ensuite suivies par des essais cliniques. Et ces essais cliniques qui ont été faits en Chine par l'équipe de Chen Su sont arrivés exactement aux mêmes conclusions que celles que nous avions faites sur les modèles de souris. Et d'autres équipes ensuite ont effectivement embrayé le pas, même dans certains cas sans aucune chimiothérapie. Donc dans des formes de bon pronostic de la maladie, l'association d'acide rétinoïque et d'arsenic était capable de guérir la quasi-totalité des malades, avec une guérison définitive, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut insister, puisqu'on n'était pas dans de l'inhibition transitoire du processus leucémique, donc on a un traitement, et puis après on arrête le traitement, exactement comme avec un traitement antibiotique. On a une infection sévère, on va prendre des antibiotiques pendant quelques semaines, et puis après on arrête parce qu'on est guéri. Et là c'est la même chose. L'association des deux était capable, avec des taux qui approchaient les 90%, de guérir définitivement cette maladie.
Arrêtons-nous quelques instants sur ces essais cliniques, puisque vous nous avez expliqué que tout n'était pas aussi simple au début, puisqu'il a fallu montrer à vos confrères que justement cette association acide rétinoïque et arsenic avait un réel intérêt. Faire des essais cliniques, j'imagine que ce n'était pas une chose évidente et que c'était une des raisons pour lesquelles ces essais se sont faits en Chine plutôt qu'en Europe.
C'était pas très simple parce que cette maladie est rare. Donc, dans une maladie rare, il y avait déjà des protocoles en cours, donc il était évidemment difficile d'arrêter tous les protocoles en cours pour passer à une nouvelle idée. Par ailleurs, la Chine, comme vous le savez bien, est beaucoup plus peuplée que la France, et donc il est plus facile d'avoir des cohortes de patients avec des nombres importants qui vont permettre de tester plusieurs hypothèses ou plusieurs questions. Donc effectivement, le saut n'était pas très facile. Et il y a une diapositive que je montre souvent à mes étudiants ou à mes confrères qui montre que finalement, le premier papier montrant de manière indiscutable la synergie entre ces deux agents, synergie qui était inattendue. Et donc la première démonstration de cet effet inattendu a été faite en 1999. Le premier essai clinique a été publié par Chen Su en 2004. Il a fallu attendre encore 5 ans pour que la communauté médicale accepte cette idée qui n'était encore une fois pas dans les modèles, qui ne correspondait pas aux modèles physiopathologiques les plus en vogue à l'époque. 10 ans, vous voyez, 10 ans finalement entre les premières expériences et une adhésion, disons, assez large de la communauté médicale en faveur de cette approche.
Aujourd'hui, c'est un traitement qui est mis sur le marché
ou... Oui, il est mis sur le marché, tout à fait, et il est utilisé. Alors là encore, les différents pays dans le monde n'ont pas tous forcément les mêmes attitudes. En Chine, dans plusieurs endroits aux États-Unis, l'arsenic est utilisé en première ligne en combinaison avec l'acide rétinoïque. En Europe, il y a des essais cliniques en cours pour encore conforter sur des nombres de patients plus importants ces premiers résultats. Mais disons que le mouvement est en marche et je suis bien persuadé que dans 10 ans, le monde entier utilisera cette stratégie-là.
Alors, je le disais, ça concerne une centaine de patients. C'est une forme de leucémie très particulière. Est-ce qu'à terme, on pourrait utiliser ces mêmes mécanismes pour d'autres maladies, d'autres cancers, par exemple?
Alors, c'est évidemment une des hypothèses qui est très séduisante et qui nous occupe pas mal en ce moment. Donc, on est en train d'essayer de trouver d'autres maladies qui ait des caractéristiques raisonnablement similaires. Donc, avec un événement oncogénique majeur, une protéine majeure ou unique à l'origine de la transformation, c'est-à-dire de la cancérisation en quelque sorte, et puis une protéine dont on a des idées sur la manière dont on peut réguler sa stabilité ou induire sa dégradation par des agents chimiques simples et si possible déjà sur le marché. Donc on a quelques pistes, et je suis assez confiant qu'on devrait quand même arriver à trouver au moins un ou deux systèmes dans les 5 ans qui viennent.
Vous ne nous en dites pas plus pour ne pas donner de faux espoirs
Oui, je crois qu'il faut être, il faut laisser la science se faire et la science se faire à son rythme. Mais disons que nous avons des raisons de penser que ce modèle n'est pas une exception et qu'il pourrait être représentatif au moins d'un petit groupe de maladies qui partagent le même type de mécanisme.
Et qui resteraient des maladies monogéniques ?
Qui vont rester des cancers rares. Qui vont rester des cancers rares parce qu'effectivement, la situation telle que je vous l'ai décrite pour la leucémie premier leucitaire, avec un événement oncogénique simple, récurrent, majeur, toujours observé, n'est pas la situation la plus fréquente, malheureusement, puisque la plupart des tumeurs correspondent à l'accumulation dans la même cellule de plusieurs lésions génétiques qui vont coopérer pour transformer une cellule complètement normale en une cellule complètement cancéreuse. Et évidemment, la multiplication de ces anomalies génétiques va rendre la thérapeutique d'autant plus complexe, puisque si vous avez dans une cellule cancéreuse 5 ou 6 anomalies maîtresses, il n'est pas du tout certain que d'en inactiver une seule va suffire à avoir un bénéfice thérapeutique à long terme. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on voit à ce moment avec les thérapeutiques ciblées, où on a l'impression qu'en ne ciblant qu'un seul de ces 5 ou 6 événements, on va avoir de temps en temps des effets, mais qui vont être des effets transitoires, probablement parce qu'il faut arriver à déverrouiller encore plus la cellule cancéreuse et d'essayer d'inactiver plusieurs voies à la fois.
Est-ce que vous avez développé un brevet, justement, pour cette association acide rétinoïque et arsenic ?
Non, parce que ça aurait été des brevets d'indication. Donc, des brevets qui ne sont pas très faciles d'abord à rédiger, encore moins faciles à défendre, parce que ça revient essentiellement à prendre deux composés qui existent et à les mettre ensemble. Et finalement, soit on les met ensemble dans le même comprimé, et à ce moment-là, on est capable de dire que cette attitude contrefait le brevet, soit on en prend l'un et puis l'autre 10 minutes après, et personne n'est capable de dire donc, que le patient a pris les deux, sauf si ça devenait le traitement standard. Donc non, on n'a pas pris de brevet.
Donc c'est un traitement qui revient relativement peu cher pour les firmes pharmaceutiques ?
Alors c'est un traitement qui pourrait revenir peu cher, sauf qu'il y a eu des complications, la grande presse s'est fait écho, sur le prix auquel l'arsenic a été mis sur le marché en France et aux États-Unis. Au fond, la détermination du prix de vente a surtout été faite en fonction du service médical rendu qui était considérable, plus que sur la recherche qui avait été faite par le laboratoire qui était faible, ou du coût de fabrication qui était quasi nul. Et donc ça a conduit à une situation assez choquante, qui a été largement évoquée dans la presse généraliste et spécialisée, et dont j'espère qu'elle va bientôt se résoudre.
Oui, c'est le service médical rendu qui devient plus important plutôt que la recherche.
Exactement.
Aujourd'hui, vous avez une vingtaine de personnes qui travaillent avec vous. Quel est l'axe particulier de vos recherches avec votre équipe ?
Deux axes principalement. Le premier, je pense, c'est de continuer à décortiquer le mécanisme moléculaire intime de cette maladie, sur lequel déjà on a réussi à avoir un niveau de compréhension qui est très élevé. Et très honnêtement, quand on a commencé ce projet, il y a plus de 20 ans, jamais je n'imaginais qu'on arriverait à en savoir autant sur cette maladie, en comprendre autant sur le mécanisme de la transformation, ni de rentrer aussi finement dans les détails mécanistiques de la manière dont les patients guérissent. Et donc, après, c'est un petit peu comme un puzzle, on met une pièce et puis une autre, et puis plus on se rapproche de la fin, plus ça va vite. Et donc, là, nous sommes dans la phase heureuse où j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin, et donc les pièces s'assemblent facilement et assez vite. Et donc, nous espérons arriver à caractériser l'ensemble des mécanismes, pas seulement de la transformation, mais aussi de la rémission et de la guérison. Donc, savoir, par exemple, qu'est-ce qui va se passer après que PML-RAR ait été dégradé. Bon, on sait que les patients guérissent, mais entre cet événement de dégradation et la guérison, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va avoir de la différenciation ? Est-ce qu'on va avoir de la mort, ce qu'on appelle aussi de l'apoptose ? Est-ce qu'on va avoir de la sénescence, c'est-à-dire du vieillissement irréversible ? Et tout ceci n'est pas encore connu et constitue des apports, à mon avis, intéressants au niveau mécanistique, même si au final, finalement, ça ne change pas grand-chose pour les patients, puisque tout ce que veulent les patients à juste titre, c'est guérir. Et après, ce qui se passe pendant cette phase de guérison les importe peu.
Eh bien, je vous remercie, Hugues, d'être venu nous rendre visite. Et puis, on vous souhaite bonne route avec votre équipe pour poursuivre justement ces recherches et avancer encore plus dans ces mécanismes qui concerne donc la leucémie promyélocytaire et puis pourquoi pas d'autres cancers rares. Merci à vous d'être venu nous voir et j'espère à bientôt pour
Merci
une prochaine
vous.
Émission. Merci.
Thank you.